Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme, on est là, on est bien, on va passer une magnifique émission, 2 heures en votre compagnie, on va refaire le foot, et on est à J-3. J-3, la deuxième étoile, c'est tout droit. C'est Benoît Boutron qui nous l'a dit. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Surexcité.
Ah bah oui, c'est une finale de Ligue des Champions quand même.
On partait de loin parce que, bon, toi, t'es pas un pro Paris Saint-Germain, ouais, tu vois. On partait de loin et en fait, l'amour, tu l'as maintenant. Et ça, c'est bien. Ça,
c'est la passion du foot, Jérôme. Ah, on veut qu'un club français brille.
Au moins, tu reconnais que c'est le club numéro 1 en France. Évidemment. Tout le monde aujourd'hui apprécie. Et
qui oserait dire le Paris Saint-Germain.
Il n'y a plus de rivalité, c'est ça qui est décevant, mais il n'y a plus trop de rivalité en France.
Ouais, on va revenir, méfiez-vous, on le sait, tout ce qui se prépare à Marseille.
On est avec Jean-Michel Larquet. Ah. Salut Jean-Mi.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Ça va Jean-Mi? Bravo hein, pour hier, quelle prestation, on s'est régalé.
On va en reparler.
Oh la vache.
Alors, souffrance alors.
Non, on s'est régalé. Le spectacle dans les tribunes, c'était fantastique. Ah ouais. C'était fantastique. Bravo. Moi, je remercie les supporters de la Saint-Etienne, Geoffroy Guichard, comme ça.
Fatigué de tout ça là, mon Dieu.
Mais alors, ils ont du courage. Mais ils ont du courage d'avoir supporté comme ça, poussé pour 0 tir cadré. On est avec aussi qui a vite retourné sa veste.
Évidemment.
Et c'est normal. Écoute, il apprécie le spectacle. C'est Pascal Olmeta. Salut Pascal.
Salut les amis. Qu'est-ce que j'ai retourné ma veste?
Salut Pascal.
Je retourne ma veste.
Benoît,
je retourne ma veste.
Ouais, qu'est-ce
toujours
que je retourne ma veste
du bon côté.
Parce que tu y vas à Budapest ou pas alors?
Franchement, j'y vais pas. Non.
Bah pourquoi? Tu faisais toutes les finales?
Bah oui.
Ouais, je faisais toutes les finales. Ben j'y vais pas.
Bah. Ah bon?
J'y vais pas.
Ah, tu veux guigner le PSG, toi?
Non, parce que j'ai le déménagement de mon... Voilà, je dis tout. J'ai le déménagement du fiston à faire et je ne peux pas me permettre... Ouais, voilà.
Ok.
Ouais.
Bon.
Malheureusement, mais je pense que j'essayerai de la regarder à la télé.
T'essaieras de la regarder, oui.
Ouais, t'essaieras, ouais. Ouais.
Alors, si tu veux, Pascal...
Ouais. Si tu participes à Roten sans flamme la semaine d'après, regarde-le quand même.
Bah oui, quand même. Mais Pascal, si tu veux, pour le dimanche, pour les célébrations prévues, Jérôme a des places VIP pour le 5 mars, hein, si tu veux.
Jusqu'à samedi, c'est quoi? C'est ici, c'est...
Ouais, c'est ton cul. Ouais. Allez, le 27 octobre, n'oubliez pas.
La deuxième étoile,
à Bayonne.
Hein. Mais oui. Il va la présenter le 27 octobre.
Parlons que de ça. Tous les plus grands seront à Bayonne.
Tous les plus grands. Commencez par Jean-Michel Larquet. Alors c'est l'événement, nous sommes à 3 jours d'une nouvelle finale de Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain, PSG Arsenal, on en parle à 19h. Débat très compliqué ce soir, on attend vos avis au 32-16, la Dream Team est partagée. Est-ce que Luis Enrique doit sacrifier Warren Zaïre-Emery, un joueur exemplaire, le plus utilisé de la saison au Paris Saint-Germain, mais qui subit la concurrence avec le retour de Fabian Ruiz et d'Achraf Hakimi? On en débat avec vous au 32-16. On va continuer de mettre à l'honneur les supporters emblématiques du Paris Saint-Germain à 18h45 dans le Halo Jérôme. On sera ce soir avec Raphaël, il a 33 ans. Il va nous raconter son périple pour rejoindre Budapest. Il y en a qui font tous les efforts possibles pour pouvoir supporter leur club de cœur en finale de Ligue des Champions.
On aurait pu faire Pascal aussi.
On aurait pu faire Pascal. 45. C'est vrai, tout à fait.
Bah oui, il était l'année dernière.
Essayé.
C'est vrai, c'est vrai.
Bah, il a fait toutes les finales de Coupe d'Europe. Bah oui.
J'y étais, mais bon,
bravo.
Un bel invité qu'on est ravi d'accueillir à 19h30, Maxence Cacré.
Ah oui.
Joueur de Côme, la surprise de la saison en Serie A. Les joueurs de Côme ont terminé 4e, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions. Il sera avec nous, Maxence Cacré, donc il va nous raconter tout cela, lui qui est entraîné par Serge Fabregas. Exactement, c'est vrai, le lac de Côme, fantastique, t'imagines la vie qu'il doit avoir. Il va nous parler de tous ces sujets. Et puis à 18h30, désolé Jean-Michel, c'est la première fois de la saison, Jérôme, on fait un procès à charge ce soir. Ouais. Procès de Nice et de Saint-Etienne pour le spectacle affligeant hier, donc ce barrage aller d'accession à la Ligue 1, 0-0.
Les pieds ont chauffé au CE.
Il n'y a pas d'idée, quoi.
Aucun tir cadré.
Il y avait trop chaud.
Ah, c'est fou, certainement. Le direct, c'est le tennis.
On a trop froid, Saint-Etienne.
Ah bah, ouais, en plus, alors.
Certainement.
Ah, mais là, c'était le chaudron.
Le début du deuxième tour à Roland-Garros avec des Français sur le court. On a un duel 100%. 100% tricolore et on a un Français qui lui affronte Novak Djokovic. Eric, salut. Salut Eric.
Salut Benoît. Effectivement, salut Eric. Deux matchs à suivre. Humbert, Alice, c'est sur le Simon Mathieu. Il y a un 7-0 pour Quentin Alice, 6-4 et on est dans le tie-break du deuxième. Et puis sur le court Châtrier, Novak Djokovic mène assez tranquillement, 6-3, 6-2, mais le troisième est plus compliqué pour le Serbe puisque Valentin Royer, son adversaire, mène 5 jeux à 4 et il y a peut-être une bonne surprise à venir pour le joueur de Pornichet.
Eric, on est sur quoi là? Sur un pain au chocolat ou une brioche?
C'est-à-dire
je sais pas, je t'ai senti à...
C'est l'heure de la collation, on a l'impression.
Ah, absolument pas.
Absolument non, pas.
Je pense que tu faut que tu ailles voir Otika.
Ah, d'accord.
Otika.
Otika.
Eric, on reste connecté avec toi.
Bien sûr, reste avec nous
parce que c'est passionnant. Humbert Alice et Djokovic Royer. Et puis il y a toujours notre jeu qui est en cours jusqu'à vendredi, Jérôme. Vous devenez sélectionneur, la liste des 26 cadeaux pour profiter de la Coupe du Monde. Vous allez gagner jusqu'à 10 000 euros en cash et net d'impôts. Sinon, vous remportez le pack Coupe du Monde, magnifique, avec un vidéoprojecteur, avec un maillot des Bleus, avec la Coupe du Monde en Lego. Il faudra écouter Roten sans flamme, être attentif et au moment du top inscription, envoyer liste par SMS au 732-16. Liste au 732-16. 18h06 sur RMC tout de suite. Le seul homme qui peut convaincre Genesio de signer à l'OM, c'est bien Pascal Olmeta.
Je fais que parler de toi. Toujours les mêmes histoires.
Donc j'ai eu une très longue discussion avec mon président pour lui faire part de l'intention de ne pas continuer à mon poste d'entraîneur l'année prochaine.
Que l'emblème qui est le Vélodrome, et ça c'est le plus beau stade d'Europe.
J'en ai un peu assez. Que mon travail, les performances soient souvent réduits au fait que j'ai une bonne entente avec mes joueurs.
Si jamais on t'énerve, tu en mets un crochet du droit, après tu peux discuter.
J'ai pas de plan de jeu, j'ai pas de philosophie de jeu, on travaille pas à l'entraînement, donc matin je me lève et puis je me dis aujourd'hui on va jouer en losange.
Un vrai régal.
J'en ai un petit peu assez d'être remis en question, je me justifie plus.
Et c'était tellement clair, il parlait football, on bavait ses paroles.
Franchement, je ne prête plus aucune espèce d'importance à tous ces commentaires-là, qui sont pour moi des discussions de café du commerce.
Je vous dis qu'on va finir champion de France.
On verra, tout est envisageable.
Tant que je vivrai, je serai à fond pour l'OM.
Bah non, j'écoute RMC, ils sont tellement pertinents que j'ai pas besoin de me creuser la tête.
C'est dur d'aimer, surtout ici.
Alors petit à petit l'organigramme de l'OM commence à prendre forme. Stéphane Richard, le nouveau président, prendra ses fonctions le 2 juillet. Il a été interrogé ce midi par BFM Marseille, nos confrères, et il a confirmé l'arrivée imminente du prochain directeur sportif Grégory Lorenzi. Reste désormais à régler la question de l'entraîneur et donc on a convoqué l'homme des infos RMC Sport, Fabrice Hawkins,
qui est là.
Salut Fabrice.
Salut à tous. Fab.
Merci d'être là. Genesio est courtisé, c'était ton info d'hier d'ailleurs. Il est courtisé par les dirigeants marseillais, mais lui, il a l'embarras du choix. Plusieurs clubs de Ligue 1 s'intéressent à lui.
Effectivement, il a l'embarras du choix avec plusieurs propositions, en tout cas avec plusieurs contacts noués ces derniers jours. Il y a tout d'abord Monaco qui a pris des renseignements. Alors on sait que sur le banc de touche, il y a le Belge, Sébastien Pocognoli. A priori, il devrait rester, mais Monaco tâte le terrain quand même à droite à gauche et a contacté Bruno Genesio, ça on peut vous le confirmer. Autre intérêt, c'est le Paris FC, donc le club d'Antoine Arnaud qui était dans l'after récemment. Le Paris FC aussi regarde un petit peu ce qui se passe à droite à gauche si jamais Antoine Camboire décidait de ne pas rester, donc ça peut être une possibilité Bruno Genesio. Et puis enfin, il y a la piste la plus solide pour le moment qui est l'OM. Tu parlais de Grégory Lorenzi tout à l'heure, ils ont échangé les deux hommes, Grégory Lorenzi et Bruno Genesio, ces derniers jours. D'ailleurs, Bruno Genesio est dans le sud de la France en ce moment, où il se repose un petit peu. C'est pas très loin du lieu de domicile aussi de Grégory Lorenzi. Okay. Et donc, les échanges se poursuivent entre les deux hommes. Clairement, l'idée de l'ancien directeur sportif de Brest, c'est de le ramener à Marseille, où, si l'on en croit Stéphane Richard, il va signer très, très prochainement. Bruno Genesio s'interroge, mais est quand même très, très intéressé. Ça, c'est aussi ce qu'on nous fait savoir. Si la proposition arrive sur la table, voilà, des livres très proches du dossier nous disent qu'il devrait y aller. Encore faut-il qu'elle arrive sur la table.
Bon, c'est pas fait pour l'instant. C'est la une de Roten sans flamme. Merci Fabrice. Est-ce que Bruno Genesio peut refuser l'Olympique de Marseille, 32-16, pour en débattre avec nous? Jérôme, est-ce que ça se refuse l'OM quand on est Bruno Genesio?
Oui, par rapport à tout ce que vient de dire Fabrice et les contacts à droite et à gauche,
s'il y avait que l'OM et qu'il a envie absolument de, d'entraîner de nouveau, parce qu'il peut y avoir une usure, mais ça c'est pas moi qui dois le dire, c'est lui. Mmh. En arrêtant de Lille, pourquoi il arrête à Lille et est-ce qu'il se laisse le temps, est-ce qu'il veut rebondir tout de suite? Apparemment, quand t'es à l'écoute comme ça et que tu rencontres des dirigeants ou que ton agent fait le job, c'est que tu veux repartir tout de suite. Ah oui. Donc automatiquement, t'as trois projets qui sont complètement différents, dont surtout un qui est peut-être à l'opposé des deux autres. C'est l'Olympique de Marseille, avec tout ce que ça représente, toutes les difficultés que ça représente, tous les coups à prendre à Marseille, on est d'accord. Mais après, si ça marche, je pense que en effet, son travail aura encore plus de mérite et sera encore plus mis en avant. Lui qui souffre un petit peu de ça, de cette image-là, c'est lui qui le dit ouais, dans la prod, c'est ce qu'on entend. Bien sûr que si ça réussit à Marseille, si bon mois à Marseille, c'est comme faire deux, trois bonnes saisons dans d'autres clubs. On est d'accord avec ça. Mmh. Et peut-être que lui, vu que le temps est compté, parce que il a dit que c'était certainement son dernier challenge.
Il a 59 ans, Bruno.
Oui, mais il a dit qu'il voulait prendre l'année jusqu'à 70 ans. Donc il l'a dit encore. Donc je pense qu'il est toujours dans cette stratégie-là. Donc automatiquement, si tu penses que c'est son dernier challenge, bah oui, mais ça c'est lui qui lui appartient. Ça lui appartient, si tu veux, de savoir si il veut vivre ça, cette émotion très forte, mais dans les deux sens, en fait, avec du positif et du négatif, avoir un peu plus de calme. Mais tout en étant sous pression, parce que dans un club comme Monaco, même si c'est plus calme, t'as l'impression que t'as plus de sérénité et plus de temps. Mais en fait, t'as pas si tant que ça, parce que c'est un club qui doit gagner. Et c'est pour ça que Pocognoli et qui a gagné déjà. Et donc, et Pocognoli, en effet, doit peut-être. Ils vont revoir les plans là-dessus. Et puis le PFC, là pour de bon, c'est peut-être le projet par rapport aux deux autres. Où il y aura encore plus de temps, parce que Antoine, on l'a entendu à l'after, et je sais que c'est sa stratégie. Il veut pas brûler les étapes, il veut monter crescendo cette
c'est
année.
Vrai, ce sont trois projets complètement différents.
Ben, complètement. Donc c'est refusable pour Bruno Genesio, Olympique de Marseille, pour répondre à ta question. Ben, ça, c'est mon avis. Et il y a une période, et si ça avait été il y a quelques années, peut-être que je t'aurais dit non, mais Marseille, ça se présente, t'y vas. Là, aujourd'hui, c'est complètement différent.
Jean-Michel.
Ça peut se refuser, bien sûr que ça peut se refuser à l'Olympique de Marseille. Alors je vais quand même préciser que Monaco part déjà avec un petit temps d'avance sur les problèmes à venir, parce que en admettant que Genesio n'aille pas à Monaco et que Pocognoli reste, on sent qu'il est pas du tout sur un siège éjectable, et Pocognoli, puisque étant en place, on considère déjà qu'il est possible de le remplacer.
Oui, là, bon, je pense que faire plaisir, quoi. C'est ce que tu es en train de nous dire.
Je pense que l'attitude des dirigeants monégasques présage d'une saison compliquée. Et puis, moi, je veux bien que l'organigramme de l'Olympique de Marseille se mette en place, mais dans l'organigramme, les problèmes de Genesio aujourd'hui, c'est pas par hasard. Hein, il s'y s'entend bien avec les joueurs à Lille, même si de temps en temps il les a un petit peu aiguillonnés. Il a quand même une fois encore réussi un bon parcours. C'était pas prévu au départ et c'était pas prévu il y a trois mois.
Ouais, que c'était Lille un peu les montagnes russes cette année.
Se qualifie pour directement pour la Ligue des Champions. Je pense qu'il y a d'autres problèmes et il faut pas regarder du côté des joueurs. Il faut regarder ailleurs. Et je crois que Genesio a une envie, c'est de devenir un manager un petit peu comme le sont les entraîneurs, les managers anglais. Il n'a pas supporté que son président à Lille prenne la place qu'il a occupée. Il prenait tout l'espace et je pense que Genesio en avait ras-le-bol. Et je crois. Comment ?
Non, il veut une situation normale.
Voilà, et je crois que du côté de l'OM, moi je veux bien que l'organigramme se mette en place. Mais j'ai lu aussi que le président devait revenir à un petit peu plus de sobriété au niveau du budget. L'équipe, les joueurs sont dans un état catastrophique. Ceux qui vont rester, Bon, je pense que c'est ils sont traumatisés à vie. Je pense que ceux qui vont arriver, je me pose des questions sur la valeur de l'équipe l'année prochaine. Et honnêtement, ce sont des clubs qui ont gagné. Monaco a gagné des titres de champion et qui ont disputé des finales de Coupe d'Europe. Et l'OM en a même gagné. Donc, pour moi, j'ai l'impression que si Antoine ne replonge pas, ça m'étonnerait qu'il replonge pas. Ça m'étonnerait. Honnêtement,
oui,
j'ai
moi pas aussi, de. Moi aussi, je pense. J'ai je pas pense qu'il de. Va continuer, mais bon.
J'ai pas de news là-dessus. Mais honnêtement, avec la fin de saison qu'ont réussi les Parisiens, évidemment, tout est à construire du côté de Paris. Et un manager à l'anglaise, tel que le souhaite Genesio, serait l'homme parfait pour progresser.
C'est quand même beaucoup moins excitant, le projet du Paris FC, en termes de ferveur populaire. Mais, et tout. Genesio, il a fait sa carrière, il a 59 ans, il a envie d'un
mais
challenge comme ça.
Mais il a peut-être pas besoin, mais arrêtez. Il a peut-être pas besoin d'être excité.
Mais Fabrice te le dit, il sera pas insensible à ce projet-là. C'est un projet incroyable quand même, ça reste un club particulier.
Mais qu'il soit pas insensible, on l'entend, et qu'il ait envie de construire et de voir un club progresser de façon spectaculaire, c'est pas non plus un mauvais challenge. Hein.
Dans les trois parce projets, il y a pas de mauvais projet, évidemment.
Bon, mais
il y a des projets plus difficiles que d'autres.
Ça,
hein.
C'est sûr. Là,
non, mais à vous écouter, c'est un plaisir. Mais c'est comme le match d'hier, Saint-Étienne-Nice. Il n'y a rien, c'est plat.
D'accord.
Vous endormez, les gars.
Bah, vas-y,
Comment un entraîneur comme Bruno ou Antoine, parce qu'Antoine, c'est en fonction de ses problèmes de genou, et comme c'est un gars droit, il voudrait emmerder personne s'il se fait opérer ou quoi, ne pas être présent, ça c'est autre chose. Mais comment, et la chance qu'on a d'avoir des entraîneurs comme ça, dont Bruno, de ne pas aller à Marseille.
Donc ça se refuse pas pour toi, Pascal. Ça se refuse pas, l'OM.
Mais non, ça ne se refuse pas. Mais c'est pas donné à tout le monde. Aujourd'hui, Bruno l'a prouvé.
Et quant à Monaco et Marseille, pourquoi plus l'un que l'autre?
Parce que pourquoi? Ben tout simplement parce que Marseille, ça reste Marseille.
Marseille, c'est ton cœur. Tu parles avec ton cœur.
Mais attends, mais le projet monégasque, il est aussi flou que le projet marseillais.
Si tu veux, je parle avec mon fion, je vais.
Mais non, mais tu parles avec ton cœur, mais en étant objectif, Pascal, la vérité, c'est que.
Déconne pas, mais l'objectivité. Mais attends, mais regarde-la bien. Mais on a été joueur. Tu sais ce que c'est.
C'est vrai.
Mais tu sais ce que de d'avoir la chance et ça marche ou ça marche pas, d'être demandé et devenir le nouveau coach de l'Olympique de Marseille. Avec cette vie, cette ambiance, si ça marche.
Et un projet qui se reconstruit, c'est pas la même situation
un nouveau président, manager, un nouveau. Mais tu as tout pour réussir. Ce que j'ai pu lui dire à Bruno, si tu arrives à Marseille, ne parle pas avec tout le monde.
Benatia, c'était un nouveau directeur sportif. Mais est-ce que tu vois, tu peux faire le bilan,
les yeux
Pascal,
de l'amour de Pascal.
Je vais te dire ce qui se passe.
C'est que je t'ai laissé parler. Ouais. Je comprends que tu es un infirmière amour démesuré pour l'OM. C'est très bien et que tu défends de l'OM, c'est normal. C'est mieux, et je te comprends.
Ouais.
Mais Pascal, honnêtement, on les prend les sept ou huit derniers entraîneurs de l'OM. 7, 8, pas 1, pas 2.
Ouais.
Il y en a 5. Quelle a été leur espérance de vie et qu'est-ce qu'ils ont pu faire à Marseille?
D'accord. Alors,
par rapport à ce qui s'est passé avec De Zerbi, Gattuso, comment il s'appelait l'Espagnol?
Sampaoli.
Pascal, tu t'endors.
Sampaoli et compagnie.
Marcelino.
Les probabilités de résultats.
Enlevez-moi tous ces étrangers avec tout leur staff de 15 personnes. Les gars, Marseille.
De résultats de Marseille, Bruno Genesio.
Marseille, il faut fermer les robinets, Jean-Michel. Ils ont mis des gens en place. Regarde ce qu'ils font à Poncho. J'ai entendu dire que c'était une balance, que c'était lui qui foutait la merde.
Maintenant, c'est la taupe.
Non, voilà, j'ai dit, moi, personnellement, j'ai dit à Bruno, et je le dis depuis des années, j'ai dit, Bruno, si tu arrives à Marseille,
tu dégages toutes ces personnes qui sont là que pour parler. Quand ça va mal, ils enterrent tout le monde. Quand ça va bien, ben, c'est eux qui sont sur la pelouse et qui n'ont rien à faire. Non, stop, stop. Il faut arrêter ces choses-là. De mettre l'un, de mettre l'autre. Les deux ou trois personnes qu'il faut virer.
Et qui est-ce qui peut lui promettre ça? Et qui peut lui promettre
le nouveau président et les gens et les gens qui
le nouveau président le nouveau président Pascal et il est novice dans le football
mais au moins c'est un nouveau projet
mais
c'est là où vous êtes des naïfs. Vous avez reproché à Longoria et à Benatia ces dernières semaines de d'avoir une frénésie d'achat sur le marché des transferts de faire énormément de
c'est un gros chef d'entreprise il va remettre de l'ordre
Pascal
le nouveau manager
oui je te comprends pas Jean-Michel et toi non plus Jérôme d'ailleurs.
Mais t'as raison de pas me comprendre. Moi, je me fie pas sur ce qui va arriver. Je me fie sur ce qui est arrivé au cours des 10 dernières années.
Mais l'équipe a changé, Jean-Michel.
Mais l'équipe, les équipes, elles ont changé aussi avant Benoît.
Mais non, Longoria,
avant Longoria, il y a eu un président. Avant Benatia, il y a eu un directeur sportif.
D'accord,
avant Deserbi, il y a eu des entraîneurs.
Comme ça. Ce que je veux dire, c'est que là où je vais dans le sens de Jean-Michel, Benoît et Pascal, moi, je veux bien que c'est bien. Que ça ait changé de toute façon après une telle saison, après autant de claques reçues, il fallait faire table rase du passé et puis essayer d'avancer. Une fois que tu as dit ça, il faut pas oublier aussi ce qui s'est passé, pas cette année, mais l'année d'avant. Quand Benatia est arrivé avec Longoria.
Oui. Bon, enfin, Longoria était déjà là. Hein.
Oui, non, mais d'accord. Mais quand Benatia est arrivé, parce que là, au moins, ça parlait foot, c'est la vérité. Mmh. Mehdi, moi, j'ai été très critique sur son boulot cette année. Tu peux pas lui reprocher cette passion qu'il a pour le football. Et j'étais même là à dire le côté passionné. Enfin, le directeur sportif, directeur de football, il met ça en avant et c'est bien.
On était tous d'accord pour dire.
Et il s'est entouré avec Longoria et avec Deserbi. Et la première année, ça a calmé. Et même avec, comme le dit Pascal, même avec les gens qui soi-disant sont là mais ne servent pas à grand chose, ça marchait. D'accord ? Mais cette année, c'est parti en vrille. Mmh. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a une première chose. Et tout Bruno Genesio qu'il est, tout le prochain président, Greg Monsieur Richard. Lorenzi. Et Greg Lorenzi qui arrive, qui aura pas la même pression qu'à Brest. Mais tu verras que si les premiers mois, ça ne prend pas, tu n'auras pas le temps à Marseille, tu seras jamais tranquille. Et là, d'un seul coup, tout ce qui est les petites personnes qui parlent beaucoup et tout ça, ceci, cela.
Moi, président, Genesio, prochain entraîneur de l'OM. Non, mais en force.
Mais il a le droit de choisir, non, Pascal? Ouais,
Non. Bruno, tu m'as écouté.
Non, mais Pascal, c'est pour ça que je te disais.
Que juste une petite moustache et une frange.
Voilà, c'est ça, exactement.
Mais je l'ai en bas, tu sais.
Mais Pascal, c'est pour ça que je te dis. Alors après, on connaît ton amour pour l'Olympique de Marseille. J'ai la même pour le Paris Saint-Germain. Mais après, juste la vérité, c'est que en ouvrant les yeux et en se disant, quand t'es à la place de Bruno Genesio, bien sûr que ça dépend ce que tu veux mettre dans ta vie d'entraîneur et la fin de carrière d'entraîneur. Si tu veux y mettre la passion, la ferveur, que ça soit ta priorité, si tu veux, au quotidien, pour te transcender, pour transmettre ça, pour vivre ça, bien sûr qu'il faut signer à Marseille. Parce qu'il n'y a qu'à Marseille qu'on va t'apporter ça, si ça marche. À Monaco, je te le dis, je l'ai vécu, tu ne pourras pas la ressentir comme à Marseille si ça marche. Et surtout, il faudra attendre confirmation à Monaco pour que d'un seul coup on te colle l'image de l'entraîneur qui a réussi à Monaco. À Marseille, au bout de 6 mois, ça peut s'envoyer en l'air en se disant waouh, Genesio c'est génial, le président c'est génial, le directeur sportif on sait très bien, il y a qu'à Marseille que ça va prendre comme ça.
Ben oui.
Les autres au Paris FC, plus de temps, on te laissera, tu auras plus de sérénité, plus de calme.
Et ça ressemblera à ce qu'il a connu à Lille ou à Rennes.
Ça ressemblera comme à Monaco, je pense, à Monaco, après un cran au-dessus, parce que Monaco, comme l'a dit Jean-Michel, il y a une vraie histoire à Monaco et c'est un grand club. Mais par contre, t'as pas le côté ferveur, médiatique,
le côté passionnel.
Côté passionnel à Marseille. Mais attention, ça peut vite se retourner contre toi. Donc c'est pour ça qu'il est capable. Je sais pas ce qu'il veut, comment il est. Si toi, tu lui as parlé, Pascal, est-ce que tu l'as senti fatigué psychologiquement? Est-ce que tu te dis non, il n'est pas fatigué, il a envie.
Est-ce que tu as des infos d'ailleurs?
Il a envie d'avancer, il a envie de vivre ça?
Ben, il est.
il est tellement passionné que pour lui, c'est vivre encore ces 5 prochaines années avec un challenge de construire, de montrer ce qu'il a montré jusqu'à maintenant, mais sans aucune pression.
Bon, bah alors il faut pas signer à Marseille.
Dans les... Non, mais de venir non, mais... gueuler dans les vestiaires quand il n'y a pas la place, quand. Non, voilà, tous ces problèmes-là font
Pascal,
que.
Pascal, on parle de ça, de l'organigramme. On reconnaisse que effectivement au départ, si tu as le président qui a un CV long comme le bras, un directeur sportif qui a réussi au niveau du stade brestois, mais que je crois extrêmement compétent à Genesio, évidemment que tu as l'impression que les choses, les planètes sont alignées. Mais je suis curieux quand même de voir au début de la saison. Quelle gueule, on va dire ça, quelle gueule aura l'effectif de l'Olympique de Marseille. Je suis assez curieux de savoir.
Ça, c'est une vraie interrogation, d'autant qu'il y a des.
Ça, je suis curieux.
Il y a des problèmes
de
financiers
voir.
À l'OM, hein. Il faut vendre avant
ça,
la fin.
Ça, je suis curieux
il
de
faut
voir.
Réduire
un
la
petit
masse
peu.
Salariale et lever là, trois top. Options d'achat obligatoires.
Et puisqu'on va parler de Nice-Saint-Etienne ou de Saint-Etienne-Nice tout à l'heure, eh bien, je pense que de temps en temps, le football. De temps en temps, il faut parler de ce qui se passe sur le terrain.
Bon, très bien.
De temps en temps.
Ça, c'est vrai.
18h26 sur RMC. Roland Garros, Eric Salio, le début du deuxième tour avec les Français qui sont sur le court. Où en est-on, Eric ?
Avec Novak Djokovic qui est à 2 points de la victoire sur le central Philippe Châtrier. Mais c'est pas simple, hein, cette fin de match pour Novak Djokovic. Jeu 7-0, 6-3, 6-2. On est au tie-break. Oh. Il y a 5 points à 4 pour le Serbe. Et puis, petite sensation sur le Simone Mathieu. Hein ? Quentin Lys mène 2 manches à 0 face à Hugo Humbert. Puis tout à l'heure, on a assisté un succès incroyable de Mensik, 13-11 au super tie-break. Et sur la balle de match, il s'est totalement écroulé, pris par une attaque de crampes. Et il a fallu l'intervention de la sécurité civile pour l'évacuer du court.
Conditions météo très délicates pour jouer à Roland Garros.
Protège-toi, remange un chausson aux pommes.
Exactement, vas-y. Et mets de la crème solaire, Eric, hein, parce que t'as une peau à vite prendre des coups de soleil. 18h27. C'est le moment de vous inscrire à notre jeu.
C'est le sucre.
Remporter jusqu'à 10 000 euros. C'est le jeu de la liste des 26. Vous choisissez votre joueur préféré et vous gagnez soit 10 000 euros, soit le pack Coupe du Monde avec un vidéo.
Il y aura un gagnant aujourd'hui,
un maillot
c'est
bleus.
Dans l'émission.
Il y aura un gagnant, tout à fait.
Alors le ballon on vous fait
officiel.
Gagner la totale. Elle n'est pas tombée, la totale.
La boîte Lego du trophée, magnifique. Vous envoyez liste
chez
Wallet, par SMS.
Vous trompez pas.
Au 7-32-16, 18h27. Vous avez jusqu'à 18h32 pour le faire. Allez, à tout de suite sur RMC. On va ouvrir le procès à charge ce soir, ce procès contre Nice et Saint-Etienne pour le spectacle. Affligeant auquel on a assisté hier. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h32 sur RMC, on est là, on est bien dans Roten sans flamme. La deuxième demi-heure avec Jean-Michel Larquet, avec Pascal Olmeta, avec Benoît Boutron. On est là jusqu'à 20h, à 18h45, Benoît.
On continue de mettre en avant les supporters emblématiques du Paris Saint-Germain. On sera avec Raphaël aujourd'hui.
Pascal viendra demain.
Ah, bien sûr, Pascal, grand supporter du PSG.
Ah bah, il a fait toutes les finales
en 3 jours. Tout à fait. Raphaël, dans un périple.
Supporter du Matra Racing, j'ai joué là-bas.
Ah oui, c'est vrai. Et puis à 19h, un grand débat autour du PSG. Est-ce que Luis Enrique doit sacrifier Warren Zaïre Emery pour cette finale? Supporter parisien, on vous attend au 32-16. Retour à Roland Garros avec ce tie-break en cours entre Valentin Royer et Novak Djokovic avec Salio.
Un tie-break ultra serré avec une balle de 7 à venir pour Valentin Royer.
Voilà.
Points à 7.
Ça s'inverse.
Et il est au service, le tricolore. Première balle filée. Il a sauvé une balle de match tout à l'heure face à Novak Djokovic. Si jamais Valentin Royer prend cette manche, je peux vous dire que Novak, il va faire la tronche, hein, connaissant l'animal. Deuxième balle de service sur le revers de Djokovic. Voilà, c'est fait.
Allez là.
Valentin Royer prend cette troisième manche avec le soutien du public. 2h42 à la pendule. C'est bon pour nous, ça.
Bravo, Eric. Et le score du match 100% français, ça donne quoi?
Bien joué, Valou.
2-7-0 pour Quentin Lys. 6-4-7. Si c'est 2-1 pour Quentin, qui est coaché par le mari de Sarah Pitkowski, vous savez tous.
Eh oui, on l'embrasse d'ailleurs.
Elle est dans les tribunes de Sarah. Je pense
qu'elle les deux, on aime bien les deux.
Ouais, bon, bien sûr.
Allez, merci Eric.
Il est coaché par.
Exactement.
RMC, Roten sans flamme.
Être gardien, c'est plus que d'arrêter des ballons. C'est un travail technique. Beaucoup pensent connaître.
les gardiens de but. Qu'est-ce que tu dis, Rotem?
Non, mais vas-y, vas-y.
Je croyais qu'il y avait une faute d'orthographe sur le papier.
À caguer à la ville. Qu'est-ce qu'il peut comprendre, lui, dans les gardiens?
Elle était bonne, Pascal.
Le procès de Rotem sans flamme.
Elle était bonne, c'est vrai.
Il n'y a rien de tel que les plaidoiries écrites de Pascal. Ah, ouais, ça, c'était quelque chose.
Je lisais, là.
C'est tout dans la tête.
Une sacrée purge hier soir à Geoffroy Guichard, ce 0-0 entre Saint-Etienne et Nice. C'était le barrage aller d'accession à la Ligue 1. Zéro tir cadré dans le match. D'après Opta, le spécialiste des stats, c'est le match français le plus pauvre en occasion de but depuis quasiment 4 ans. Alors qu'on a eu une belle ferveur stéphanoise, près de 50 000 Stéphanois présents pour pousser les verts. Le retour sera vendredi à huis clos à l'Allianz Riviera. On ouvre donc un procès à charge ce soir. Le procès de Nice et de Saint-Etienne pour le spectacle affligeant hier. Trois procureurs, Jérôme Rotten, Jean-Michel Larquet, Pascal Olmeta. Et ça va vous faire plaisir, messieurs, parce que pour rendre le verdict d'un procès à charge, on a convoqué notre ami Lulu, supporter historique de la Saint-Etienne. Salut Lulu.
Si Lucien est
là.
Salut Lulu.
Ça va et vous?
Ouais. Bah super.
Presque aussi mieux que Jean-Michel.
Pas trop chaud?
Content de te recevoir.
Oh, écoute, moins chaud qu'hier soir au chaudron, mais.
Ah ouais, hier.
Ça, c'est sûr.
Ouais.
Mais écoute, en parlant du match, j'étais vraiment hier.
Mais t'es juge, Lulu.
Bah attends, Lulu, laisse les plaidoiries et puis après tu nous donneras ton avis. Ok,
on arrive, Lulu, t'inquiète pas.
Ouais. Vas-y, Jérôme.
On arrive, Lulu.
En 3 secondes.
Jérôme, est-ce que tu as tenu jusqu'au bout? Est-ce que tu as regardé ce barrage du début à la fin?
J'ai tenu jusqu'au bout, ça. Oui. Bah, oui, parce qu'on se dit, sur ces matchs de daube, il peut toujours se passer un truc à la fin, la dernière seconde, sur une erreur, sur un arbitre qui perd les pédales. Parce que bon, c'est un peu arrivé, parce qu'il y a eu une décision en première mi-temps sur un pénalty qui devait être donné à Saint-Etienne. Franchement, on l'a tous vu avec la VAR. Alors après, il l'envoie à la VAR, le pénalty n'est pas accepté. Peut-être que ce but-là, ce pénalty-là, aurait libéré un petit peu les acteurs et que Nice en aurait fait un peu plus et serait un peu plus concentré techniquement parlant, et que Saint-Etienne, avec la volonté de Nice de revenir au score, aurait eu des espaces et aurait peut-être techniquement fait des choses plus intéressantes dans les 30 derniers mètres. Mais encore, c'était avec Dessy, tu vois. Ouais. Parce que quand je regarde la composition d'équipe de Nice, et que je me dis cette équipe-là, elle jouait en début d'année la Ligue des Champions, du moins le barrage de la Ligue des Champions, et de nous mettre ça. Alors bien sûr que cette équipe a montré tellement de lacunes tout au long de l'année, et ces joueurs-là, qui sont complètement en régression pour la plupart, n'ont pas montré grand-chose. Mais de là à nous faire subir ça, parce que pour moi c'est subir. Ah mais non, mais franchement, totalement. Et je me dis que les amoureux de Nice hier, qui se disent putain, on va sauver notre peau contre Saint-Etienne sur le barrage, mais il faut absolument, et ils voient ça, mais je les plains, en fait, tout au long de l'année je les plains, parce que j'ai pas vu tous les matchs de Nice cette année. J'en ai vu quelques-uns, quand même pas que quelques-uns.
T'en veux plus à Nice qu'à Saint-Etienne, toi?
Oui, parce que en fait Nice, ils doivent montrer quand même un niveau. On parle de l'élite, on parle de la Ligue 1, peu importe qu'ils aient eu un championnat merdique. On est dans l'élite, dans la Ligue 1, et que un joueur professionnel, déjà, c'est difficile d'y arriver. Que tu sois professionnel en Ligue 3 l'année prochaine, en Ligue 2 ou en Ligue 1, écoute, c'est compliqué. Et ça, tu deviens pas professionnel par hasard. Mais après, t'as des devoirs et des obligations. Quand t'es un joueur de Ligue 1, tu dois avoir un minimum d'investissement, de concentration et de qualité technique. Parce que c'est le ballon, les pieds. Je suis désolé, courir. Moi, on me parle d'intensité. Oh ouais, l'intensité du match était pauvre. Oui, mais il faisait chaud. Et ça nous est déjà arrivé de jouer dans des matchs où il y avait une chaleur. Du moins, tu vois, le stade à Saint-Etienne, il est fait. C'est Jean-Michel, il est mieux placé que moi pour le savoir. Comme il disait tout à l'heure, quand il fait froid, il fait très froid. Quand il fait chaud, il fait très chaud. Bon, ok, ça peut jouer sur le rythme, mais quand même. Les pieds, les gars, les Niçois, mon Dieu. Alors Saint-Etienne, bon, Jérôme, vas-y.
Alors Jérôme, moi j'étais surpris parce que la dernière fois que j'ai vu les Niçois avant ce match-là, c'était la finale de la Coupe de France où je les avais trouvés.
Mais pas mal.
Vendredi,
pas mal.
Je me disais, il y a quand même des joueurs qui ont de la qualité, et je pensais naïvement que entre ce que m'avaient montré les Niçois lors de la finale de la Coupe de France, avec les deux frappes sur les poteaux et les 40 000 spectateurs qui étaient à Geoffroy Guichard, je pensais que j'aurais un match vivant, un match intéressant. Ouais. Je n'ai rien eu de tout ça. Alors, je vais juste évacuer quelque chose. Je commence à avoir ras-le-pompon des barrages et de ceci, cela. J'aime pas ça. J'aime pas ça parce que il y a qu'à faire deux montées, deux descentes, ou trois montées, trois descentes, mais que les choses soient claires dès le départ. Alors, il paraît qu'on intéresse, on ceci, cela, alors qu'on fait tout pour avantager la Ligue 1 dans les barrages Ligue 1, Ligue 2, et qu'on fait tout pour avantager la Ligue 2 dans les barrages Ligue 2 nationale. Donc, ça me gonfle, déjà. L'éthique n'est même pas respectée. Alors, si on fait les barrages, autant faire des barrages avec des matchs aller-retour, avec tirage au sort. Déjà, les dés sont à moitié pipés. Et bon, c'est des trucs à rallonge. Des saisons à rallonge qui se chevauchent avec la finale de la Coupe de France, qui se prolonge par rapport évidemment au championnat. Donc déjà je pense que la commission des compétitions, si elle se réunit ailleurs qu'au restaurant de la Ligue, pourrait éventuellement se poser la question. Mais hier c'est une catastrophe. Hier c'est une catastrophe nationale. Enfin, tu as un barrage, tu as l'impression qu'il n'y a aucune des deux équipes, et malheureusement j'en veux un petit peu plus à mon équipe de Saint-Étienne qui joue à domicile, qui joue contre une équipe qui est traumatisée et qui tente rien à l'image de son avant-centre
Stassin.
Ben, on m'a dit que Stassin valait 40 millions d'euros.
Bon, nos
adieux. S'il vaut 40 millions d'euros à mon époque, l'avant-centre qui était avec moi, il en valait 200. Qui s'appelle Hervé Rebelli, qui est le meilleur buteur de la Saint-Étienne. Et donc, quand tu dis les pieds chauds et les pieds carrés, je crois que malheureusement, hier, on a vu en 90 minutes, ou un peu plus, parce qu'il y a eu beaucoup de temps, on a vu les limites techniques d'une équipe de haut de classement de Ligue 2 et de bas de classement de Ligue 1. C'est ce qui m'a le plus... ne pas cadrer une frappe.
Ah oui, non, mais c'est terrible.
Ne pas cadrer, techniquement, est-ce possible ?
Non, c'est fou. T'as raison.
Est-ce possible ?
Pas une frappe.
Ça veut dire que techniquement, ces garçons-là, qui ont des contrats professionnels, et moi, il y en a certains, ils ne savent pas taper dans le ballon.
Ah oui, je te confirme.
Parce que je le répète, ils ne savent pas frapper avec le coup de pied, te mettre une balle brossée de l'intérieur ou une balle brossée de l'extérieur. Ils ne savent pas le faire.
Pascal, toi qui tape dans un ballon alors.
Ouais. D'habitude, je tape sur autre chose, mais là. J'ai regardé la première mi-temps parce que je me suis dit, Saint-Etienne remonte, Nice descend, mais là, je ne sais pas qui monte, qui va descendre. Heureusement, j'ai regardé aussi pour ça, pour l'ambiance des supporters.
Ah ben eux méritent d'être en Ligue 1.
Oui, il y avait des enfants, il y avait de très jeunes enfants. Alors, imaginons, parce que c'est rare de voir des matchs comme ça, ou alors, je comprends. On peut dire, parce qu'une équipe a peur de prendre un but, l'autre, non, mais pas à ce niveau-là. Alors, imaginons le match retour à huis clos.
Ah, ben ça va être long. Ouais, si c'est le même scénario, c'est sûr que...
Et vive les barrages.
Ouais, mais qu'est-ce qui va se passer ? Là, c'est les barrages, on est début juin, il y a la finale de samedi, il y a... ça devient du n'importe quoi. Bon. Ça,
alors,
c'est la folie.
Le verdict de ce procès à Charles. Lulu, dis-nous ce que tu en as.
Alors, je vais vous dire la vérité. Jean-Michel, il a bien résumé les barrages, parce que quand on voit en D2 le quatrième et le cinquième qui font les barrages entre eux, et après qui rencontrent le troisième. C'est une histoire de fou, parce que normalement, le troisième, il devrait rencontrer directement le dernier de Ligue 1, le troisième de Ligue 1. Et je comprends pas pourquoi ils font jouer autant de matchs à Saint-Etienne pour jouer contre le cinquième et le quatrième. Mais là, Stassin, Dagashvili, hier, pourquoi ils ont été...
Dagashvili.
Pourquoi ils ont été... Parce que Stassin, qu'est-ce qui s'est passé ? c'est qu'il attendait sa sélection pour être sélectionné au mondial.
Ouais,
et comment ça, et l'entraîneur de comment
ça, Rudy Garcia,
l'a complètement défoncé parce que il l'a même pas mis, il l'a mis dans les remplaçants des remplaçants.
Ouais.
Et ça l'a détruit Stassin. Et quand vous voyez la prestation de Stassin hier,
parce qu'il avait la prétention d'être dans les titulaires.
Non, mais il espérait participer.
Non,
à la
mais tour. Lulu,
mais je suis d'accord avec toi.
Vous allez à la pêche et vous mettez même pas de verre au bout de la meçon et vous croyez attraper du poisson, vous.
Jean-Michel, je suis d'accord avec toi qu'il ne mérite pas sa sélection en équipe nationale. Mais quand tu vois les trois attaquants stéphanois hier, qui étaient inexistants. Alors Cardona, je t'en parle même pas, on le voit plus depuis 7 matchs. Alors voilà ce qui se passe.
C'était que depuis 5-6 matchs.
Le mieux, c'est que Lulu se fasse une bouffe avec Jean-Michel parce qu'on a une émission.
Saint-Étienne n'aurait jamais dû jouer les barrages.
Ouais, salut,
parce que quand tu perds contre Bastia, tes trois derniers matchs. Ces trois derniers matchs, t'as la Ligue 1 qui leur tend les bras. Normalement, ils ne devaient même pas jouer les barrages. Ouais. Ils auraient dû monter directement. Et
S'ils avaient tout ce qui leur manque, qu'est-ce qui serait bon?
Pourtant, on attendait beaucoup des latéraux à Saint-Etienne, Pedro d'un côté et Appia de l'autre.
C'est un ami des
gens.
Denis
Appia, c'est un ami, mais il n'est pas ami avec le ballon, ça c'est sûr.
C'est un bon joueur. Un mec super.
Denis Appia,
il joue arrière gauche et droit pied.
Denis Appia, c'est un mec à droite. Et je vais te dire, je le connais un peu mieux que toi. Je le connais un peu mieux que toi parce que il a joué avec moi à Caen.
Et ben voilà, bon joueur, Denis.
Ouais, mais je le voulais pas à gauche quand même. Je voulais pas qu'il joue derrière moi.
Merci à Lulu. Dans un instant, allô Jérôme. On met en avant les supporters du PSG. On sera avec Raphaël qui se prépare un périple pour rejoindre Budapest.
C'est vrai que c'est le meilleur joueur de Saint-Etienne. Dans un ballon et hop ça tombe, hein, t'as vu, les droits ça tombe encore.
RMC 18h-20h Roten sans flamme,
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h50 sur RMC, on est là, on est bien dans Roten sans flamme, les 10 dernières minutes de la première heure avec Jean-Michel Larquet, avec Pascal Olmeta et avec Benoît Boutron. Après 19h, on se projette sur la finale de la Ligue des Champions, la deuxième étoile, c'est tout droit.
Et là, mal au cœur ce débat, le thème. À 3 jours de la finale, est-ce que Luis Enrique doit sacrifier Zaïre Emery?
Pourquoi on fait mal au cœur
parisien? Parce que c'est un choix.
Parce que je sais que Luis Enrique, il écoute Roten sans flamme et tout ce qu'on va dire, du moins ce que je vais dire.
J'ai hâte d'entendre ton avis.
Je sais pas ce que va dire Jean-Michel et Pascal. Je pense que ça va lui servir pour faire la compo d'équipe.
Bon. Allons à Roland Garros, avant le Allo Jérôme avec Eric Salio. Et donc, le suspense relancé entre Royer et Djokovic. Eric.
Ouais, absolument. Et bientôt 3 heures de match sur le central. Alors. Et 2 manches à 1 pour Novak Djokovic.
Allez, Valou !
Il pensait avoir fait le plus dur en empochant les 2 premières manches 6-3, 6-2. Mais il s'est fait cueillir dans le tie-break du 3e avec. Beaucoup de courage, Valentin Royer, donc, à recoller au score et il y a peut-être de l'exploit dans l'air. Sur le court, Sylvain Mathieu, 2-7-0 pour Quentin Alice, 6-4-7-6 et il mène 3-2 dans le 3e, mais c'est Hugo Humbert qui est au service.
RMC, Roten sans flamme.
La banane.
Toute la semaine dans Roten sans flamme à 18h45, on met en avant les supporters emblématiques du Paris Saint-Germain. On est très heureux d'accueillir Raphaël aujourd'hui, Jérôme, 33 ans, Raphaël qui prépare son périple pour aller à Budapest. Salut Raphaël.
Salut Raphaël.
Salut les gars.
Bienvenue.
Sois le bienvenu.
Bienvenue. Merci Raphaël. Beaucoup.
Bon alors, j'imagine que là l'excitation, ça commence à monter un peu là.
Bah ouais, parce que là, c'est J-3, on se prépare tranquillement. Moi, je pars après-demain, donc vendredi, pour Vienne. Et on part avec un groupe en voiture au petit matin le samedi pour arriver tranquillement dans Budapest. Donc ouais, là, mine de rien, ça arrive vite là.
En voiture?
Non, en avion, on va jusqu'à Vienne le vendredi. Ah,
d'accord.
Et le après, samedi matin, on alloue une voiture et on part à 8h du mat.
Vienne-Budapest en voiture Avec des d'autres supporters du PSG.
Ouais, avec un ami à moi et deux autres supporters. Et puis
c'est
quoi,
combien d'heures de route, ça?
2h30, ouais. Même pas 3h, je crois. Ça va, ça le fait.
Ouais, si vous, il y a pas trop de radar sur cette route, là, j'ai déjà fait. Donc, tu vois, en une heure et quart.
Respecter les limitations de vitesse. Et le retour, comment ça va se passer?
Le retour, nous, de toute façon, on a loué une voiture. On reste jusqu'au lundi soir à Vienne. Donc, on rentre, selon le score, hein, forcément, on rentre, si on gagne, on fait la fête. Si on perd, on rentre rapide. Et après, on reste à Vienne jusqu'au lundi. On visite un peu. On en profite. Les billets d'avion étaient moins chers à rentrer le lundi. Donc, on fait comme ça.
Raphaël, tu as 33 ans. Raconte-nous ton lien avec le Paris Saint-Germain. T'es supporter depuis tout petit?
Premier match. Premier souvenir de match, c'est 98-99. J'avais 5 ans. Et transmis par mon grand frère, mon père, qui m'écoute, je crois, actuellement. Et j'ai toujours été pour le PSG, hein. Même des temps plus difficiles avec Jérôme, hein. Et au contraire, on avait plus de passion à ce moment-là parce que une victoire en Ligue 1, c'était précieux à chaque fois. Donc,
exactement.
Donc voilà.
C'est vrai. Ouais. Ça vous fait rire.
T'as des bons souvenirs avec Jérôme d'ailleurs, parce que t'étais jeune. Ouais.
Déjà avec Jérôme l'an dernier, j'étais à Munich pour la finale contre l'Inter et j'ai croisé Jérôme après le match. On était en tribune de presse. Et, ok. D'accord. On l'avait croisé, ouais, c'était un bon moment. Ouais.
Et il avait déjà soulevé la coupe ou pas, Jérôme? Pas encore?
Non, pas encore. C'était juste avant le soulevé.
D'accord.
Ouais. Mais avec Jérôme, les années 2004 à 2010, si je me trompe pas.
C'est ça,
Avec Jérôme, et plus de galères que de réussites, mais bon, la passion, elle était là, et les victoires contre l'OM, on va dire, c'est les plus gros souvenirs que j'ai de cette période.
Donc tu as vécu à bloc, toi,
c'est ça?
Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Michel? Vas-y.
Non, je sais pas. Il y en a eu beaucoup des victoires.
En finale de Coupe de France en 2006 déjà.
Contre l'OM, à notre époque, on était sur une série de. On avait le maillot, 7 matchs, 7 victoires.
Ah bon?
Ouais, 8, 8 même.
Ouais, après, c'est 8. Passé à 8, ouais, mais on avait les t-shirts à 7 matchs, 7 victoires. Okay. C'était beau quand même.
Et après, il y a eu le match contre les Minots? Non, c'est pas ça?
Ouais, c'était un peu après.
Contre les Minots, ça fait match nul.
Ouais.
Non,
ouais,
c'est ça. Eh oui, non.
Ouais, après, deux mois après, on les bat en finale de Coupe de France.
Ouais, donc c'est pour ça, tu sais, on les avait amadoués avec les. Ils ont pas compris encore, les Marseillais.
Ouais. Raphaël, t'es un vrai passionné, on le voit sur tes réseaux sociaux d'ailleurs. Parce
c'est,
que
un vrai, c'est un vrai Parisien, Raphaël, d'où il est?
Raphaël, ouais, t'es un vrai Parisien?
Région parisienne, là, ouais.
Voilà. Donc, c'est ton amour depuis que tu es tout petit. Est-ce que l'émotion est la même cette année que l'an dernier ou est-ce que c'est vraiment différent?
Franchement, je vais être honnête, hein, je suis tout aussi excité après. C'est comme, je compare un petit peu avec France 98, quand c'est la première, en plus avec un tel score en finale, ça va être difficile de faire plus fort. Après, faire un back-to-back quand même, c'est même le Barça de Guardiola l'a pas fait, donc c'est quand même, voilà, je suis quand même très excité, mais à voir ce qui se passe au moment venu, mais en tout cas, là, aujourd'hui, là, je suis déjà dans le match à J-3, donc là,
Raphaël, qui va être l'homme de la finale?
Ah.
Côté Paris.
L'homme de la finale. Côté Paris.
Allez. Ouais.
Tu crois que c'est un médium?
Moi, je pense que, franchement, vu sa forme, je vais pas être dans l'originalité, mais Kvaratskhelia, sachant qu'il joue pas la Coupe du Monde, au vu des dernières performances en Ligue des Champions, il est quand même sur une bonne lancée, donc une petite pièce sur lui quand même.
Bon. Et Raphaël, qu'est-ce que tu répondrais à notre débat de 19h? Est-ce que Luis Enrique doit sacrifier Zaïre Emery?
Ça va dépendre. Pour moi, ça va dépendre de l'état de forme de Hakimi, parce que évidemment qu'un Hakimi même à 80% sur le côté droit et mettre Warren dans le milieu à 3, ce serait mieux, parce que Warren, je l'aime pas. Il dépanne bien. On l'a vu au match retour contre le Bayern sur le côté droit. Mais sincèrement, ça m'embêterait de le sacrifier quand même. En fait, ça dépend vraiment de l'état d'Hakimi et aussi de la forme de Ruiz. Je sais pas actuellement où ils en sont sur leur reprise, mais moi je préfère voir Warren au milieu. Il fait une excellente saison, il mériterait d'être titulaire, ce serait une récompense. L'année dernière il était remplaçant, il est rentré en fin de match contre l'Inter, cette année il mérite d'être titulaire, et surtout dans le milieu de terrain. Donc j'espère en tout cas le voir. Ça voudrait dire que Hakimi peut conserver sa place sur le côté droit, mais bon.
Raphaël,
on verra ça.
On te souhaite un bon voyage, une bonne finale surtout.
Préparez bien ça, profitez bien en tout cas, parce que c'est des moments uniques pour des supporters d'un club comme
ça. C'est l'âge d'or, deux finales de
suite. Et puis si c'est la deuxième étoile, tu l'as dit, hein, ça va être encore plus beau. Et ce qui est sûr, c'est que là, tu rentres dans l'histoire européenne.
Exactement.
Ouais, c'est clair. En tout cas, j'espère que je te recroiserai dans la tribune comme l'année dernière.
Certainement. Jérôme sera là, t'inquiète pas.
On y sera, on sera là, et j'espère qu'on aura les mêmes ondes.
Et Raphaël Pascal pensera fort à vous, il sera à fond derrière le PSG.
Bah, il était là,
oui, évidemment.
Il était pas loin de nous la dernière fois. Il était avec son maillot de l'Inter qu'il a vite rangé. Et on lui a offert le maillot de Paris qu'il a pas quitté de l'année, c'est Raphaël.
Tu as raison. Je vais juste passer une petite dédicace à mon manager Enguerrand qui m'écoute, il vous écoute tous les soirs.
Et ben, on le salue alors.
Donc, petite dédicace s'il m'écoute.
Et ben, allez, salut manager.
Merci Raphaël. Allez, bonne soirée.
Salut. Faites attention sur la route.
Faites attention, respectez les limitations de vitesse vous avez le temps.
Voilà.
Évidemment. Ouais. 18h58 dans un instant. Lançons donc cette grande finale à J-3. Est-ce que Luis Enrique doit sacrifier Zaïre Emery? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme.
Vous avez aimé la première partie? Alors écoutez tout de suite la deuxième partie de Roten sans flamme.